Aujourd'hui, on part une autre petite série d'études sur une autre lignée de pensée. On a pas mal passé sur beaucoup de sujets sur la foi. C'est sûr qu'on va toujours revenir de temps en temps sur ces sujets-là, sur le sujet de la foi. Mais le sujet qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va commencer dans les études futures, c'est notre position, ou plutôt nos positions en Jésus. Le fait qu'on soit en Jésus a permis que, à cause de l'œuvre de Dieu, à cause que Dieu a fait dans notre vie, tout ce qu'on a reçu dans ses promesses, ça a fait de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. On n'est plus le même. Ce que vous voyez là aujourd'hui, c'est la version transformée de Daniel Poulain. C'est pas le vrai Daniel original. C'est une version régénérée, on pourrait dire modifiée génétiquement, spirituellement par le Saint-Esprit. Mes gènes, toute ma vie a été changée par Dieu. Je suis une nouvelle créature et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous autres aussi, vous êtes de nouvelles créatures. C'est un peu comme l'apôtre Paul qui disait, si on a connu Jésus selon la chair, on le connaît plus de cette façon-là. Oui, c'est vrai qu'on a pu voir Jésus selon la chair, mais le Jésus selon la chair a toujours quand même été rempli du Saint-Esprit. Tandis que chacun de vous, on a pu se connaître dans la chair, mais on n'était pas des gens remplis du Saint-Esprit. On était des gens, on va le voir dans l'étude, aujourd'hui on va en parler, comment est-ce qu'on était originalement, puis comment est-ce qu'on pouvait être perdu. Puis il a fallu que Dieu vienne faire quelque chose pour faire de nous une nouvelle créature. C'était pas juste une option, comme si ça nous tente, on faut le devenir, sinon c'était pas grave. Non, c'était nécessaire qu'il vienne nous changer. Puis c'est ce que Jésus, le sacrifice de Jésus, a permis de faire en nous. Une transformation complète, qu'on soit de nouvelles créatures. Puis ça, faut se le dire, nous sommes des êtres transformé. Puis on est transformé, puis il y a un processus de transformation qui continue. Puis on va voir ça dans les futures études. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder plus à la base de cette nouvelle ligne d'études-là, nous sommes, grâce au Christ, une nouvelle créature. C'est ça qu'il faut comprendre. La Bible nous le dit dans plusieurs passages, puis il fallait que ça en soit ainsi. On va voir un peu plus en profondeur quels sont les changements que nous avons reçus grâce au Seigneur. Nous, on n'a aucun mérite. Mais grâce au Seigneur, on a reçu comme de nouveaux statuts. On a des titres, on a des statuts, une position en Jésus. Puis il y a plusieurs positions qu'on a en Jésus. Une nouvelle position grâce au sacrifice de Jésus, à cause qu'on est devenu enfant de Dieu. Même le fait d'être enfant de Dieu, c'est une nouvelle position. C'est un statut qui est différent de ce qu'on était. Donc ça, on va le voir la semaine prochaine, le fait d'être enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir qu'on est de nouvelles créatures qui nous permet d'accéder à tous les nouveaux titres ou nouveaux statuts qu'on a reçus en Jésus. On va voir dans les prochaines études, regardez des choses que le monde ignore. C'est des choses que le monde, dans leur science, ne peuvent pas comprendre. Le monde ignore ces choses-là. C'est des choses que Dieu a préparées pour nous, qu'il l'aimons. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 et 10, ça nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il y a des choses qu'on doit apprendre, qu'on va apprendre, il y a des choses que le monde ignore, que ça n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Il y a une chose que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, puis on l'a vu il y a quelques études passées, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme face à lui. Il a mis la pensée de l'éternité. Puis on l'a vu, c'est écrit dans Ecclésiaste, même si on ne pouvait pas comprendre sur toute la ligne ce que Dieu avait prévu pour nous comme promesse, mais on le sait que dans le cœur des hommes, Dieu a mis la pensée qu'on en pourra être éternel, vivre d'une manière sans fin. Puis ça a été, les humains ont été comme à la recherche de la vie éternelle par le Saint Graal ou toutes sortes de procédés, puis des messes noires, puis ont, toutes les manières ont été essayées pour pouvoir atteindre cette vie éternelle-là, parce que la pensée de l'éternité est dans l'homme. Mais tout le reste, quand on parle des révélations de Dieu, les promesses de Dieu, les choses que Dieu nous accorde en Jésus-Christ, ça n'a pas monté dans le cœur des hommes. C'est quelque chose qui est révélé pas par l'esprit humain, c'est révélé par l'esprit de Dieu. Si quelqu'un apprend des choses sur les révélations de Dieu, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui nous les a révélées. Puis Dieu a préparé des choses cachées pour nous. Tout ce qu'on va voir, le fait d'être dans de nouveaux statuts, nouvelles positions en Jésus, c'est des promesses qui étaient annoncées, qui sont acquises à cause de Jésus-Christ. Puis il faut les découvrir. Ça fait partie de notre trésor que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Même les docteurs en Israël, les savants parmi les Juifs, connaissaient rien de ça, ils n'en saisissaient pas le sens. Jésus a essayé de l'expliquer à Nicodème, puis Nicodème, il avait quand même l'esprit ouvert, parce que malgré que les Juifs, ils étaient comme en guerre contre Jésus, Nicodème est allé, lui, voir Jésus, puis il a posé des questions. Puis Jésus, il a donné des réponses, et il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour entrer dans le royaume. Puis il dit, comment ça peut se faire, un homme, quand il est vieux, peut-tu rentrer dans le ventre de sa mère, puis naître? Puis dans Jean 3,10, Jésus lui a répondu, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses. Mais les gens, sans l'Esprit de Dieu, ne pouvaient pas comprendre ces choses-là. C'était quelque chose de révélé par le Saint-Esprit. Les disciples l'ont compris, puis ça a été une bénédiction pour nous. Mais pas sur le coup. Il a fallu que Jésus les enseigne, il a fallu qu'ils apprennent, qu'ils reçoivent les révélations aussi après la mort de Jésus. Puis là, ils ont mis ça par écrit, puis ils nous ont donné le message de Dieu, ses promesses, puis l'application pratique que ça fait dans nos vies. Puis c'est normal, la Bible en parle, c'est normal que le monde ne puisse pas comprendre ces choses, car ce sont des secrets qu'on ne peut apprendre que par des révélations du Saint-Esprit. Dieu a choisi de parler aux gens en parabole, puis aux disciples, Jésus expliquait les affaires. On a un statut privilégié à cause qu'on est un disciple de Jésus. Jésus prend le temps de nous expliquer ce qu'on a besoin de comprendre. Dans 1 Corinthiens 2,14, ça nous dit que l'homme naturel, l'homme animal, ben il reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, qu'on analyse ces choses-là. Il dit spirituellement, mais dans d'autres traductions, ça dit, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut arriver à analyser ces choses-là. C'est pas quelque chose de naturel. L'homme avec l'esprit humain peut pas saisir ces vérités-là. La Bible nous le dit, l'esprit humain, l'homme naturel, l'homme livré à lui-même dans sa nature humaine, son esprit lui sert que pour analyser les choses de cette vie. Ça, il peut te faire des expériences de biologie, de chimie, microscope, télescope. Ça, l'esprit humain est capable d'arriver à comprendre les choses humaines. Tandis que le Saint-Esprit, quand tu le reçois, il commence à te donner des révélations qui sont des secrets que Dieu n'a pas voulu révéler ça à tout le monde. Il a voulu révéler ça juste à ceux qui l'aiment. Êtes-vous de ceux qui aiment Dieu, qui aiment Jésus? Donc, ces révélations-là sont pour vous. Le Saint-Esprit va débloquer. Ah oui, il y a des choses qu'on sait déjà, mais il y a des choses, on va comprendre que si on apprend tout ça aujourd'hui puis qu'on y croit, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a révélé. Ça fait partie de ce que Dieu a pour nous. Merci, Seigneur. Il y a un beau trésor. On rouvre un beau coffre, puis c'est rempli de plein de belles perles. Ce sont des choses qui nous étaient impossibles de comprendre avant que Dieu décide de nous donner son Saint-Esprit pour nous les expliquer. Parce qu'on n'est pas venu au monde avec le Saint-Esprit. On le reçoit à notre conversion. Puis à cause de cela, Dieu, il s'est fait un plaisir de répandre son Esprit. Il l'a promis. Il dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit. Puis là, les révélations vont naître, les compréhensions des choses cachées de Dieu. Puis ça, à nous, même nous, faut se l'avouer, si on apprend des choses aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres. Parce que, regardez-vous, avant que vous acceptiez Jésus, vous ne saviez rien. Les seules choses qu'on savait, Jésus, on pouvait même Marie, les saints, les morts, tu sais. Puis on était habitués de faire comme tout le monde. On priait des morts, on savait pas à quel saint se vouer. Il y en a tellement. Mais l'idée, comprenez-vous l'idée? On était aveuglés, on savait pas où on s'en allait, puis on faisait ce qu'on pensait qui était la bonne affaire, puis on a commencé à comprendre les choses suite à notre conversion. Les vraies révélations commençaient là. Puis dans 1 Corinthiens 2, 10, ça nous le dit, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » L'Esprit sonde les secrets de Dieu. Les choses cachées nous sont révélées par son Esprit qu'on a reçu à notre conversion. Wow! Merci Seigneur de ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous faire comprendre toutes les nouveaux statuts, les nouvelles positions qu'on a devant toi en Jésus. Les apôtres ont reçu les révélations, ils ont été les premiers à recevoir les révélations. Jésus les a dit aux 12 apôtres, vous êtes heureux, là, vous autres, là, de voir ce que vous voyez et d'entendre ce que vous entendez. Il a dit, il y a beaucoup de prophètes qui auraient espéré être là dans ces moments-là, pouvoir voir. Parce que Jean, quand il l'explique, il dit, la lumière est venue. Puis les gens préféraient les ténèbres à la lumière. Mais lui, Jean, reconnaissant en Jésus qu'il était la lumière, il était la vie, la lumière des hommes. Puis la lumière, lui, dans les ténèbres, puis les ténèbres ne l'ont point reçu. Jean, reconnaissant Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, venu pour nous éclairer. Puis le fait qu'ils ont compris, ils ont été à l'écoute, ils ont écouté, puis ils ont compris ce que Jésus a dit, ils ont pu nous mettre ça par écrit, pour qu'on ait encore les écrits 2000 ans plus tard. Merci Seigneur, parce que sans cela, on n'aura rien. On sera encore assis dans les ténèbres comme le peuple qui l'était dans ce temps-là. Puis là, les apôtres, ils n'ont pas juste gardé la bonne nouvelle pour eux-mêmes. Ils s'en ont fait un devoir, premièrement, d'obéir au Seigneur, puis d'aller répandre la bonne nouvelle à toute la création et leur enseigner à observer ce qui est prescrit. Parce que la vie chrétienne, c'est aussi des pas à mettre en pratique. Les apôtres ont reçu les révélations et ils nous ont transmis la sagesse de Dieu. Ce qu'on va voir là, les révélations, la science, la connaissance, tout ce bagage-là d'intelligence, c'est donné par Dieu. Quand on va passer à travers de l'étude, là, ça va devenir simple. On va dire, on sait ça maintenant. Bien, vous avez été remplis de la connaissance de Dieu, de la connaissance de son plan, de ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Dans 1 Corinthiens 2, 6 à 8, ça nous dit, l'apôtre Paul qui parle, « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Les gens de ce monde ne peuvent pas saisir, c'est ce qu'on va voir ensemble. Ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Tout ce qu'on apprend sur Dieu, les révélations, la sagesse de Dieu, c'est à préparer avant que le monde soit créé. Dieu avait déjà dans son plan de nous les révéler par son Saint-Esprit. Puis il avait prévu que toutes ces révélations-là soient données à travers Jésus pour commencer. C'est lui qui a commencé à allumer la lumière. Les apôtres ont commencé à voir les choses. Puis après ça, ils s'en ont fait un devoir de prêcher la sagesse de Dieu que le monde ne peut pas comprendre, mais que Dieu avait préparé pour nous. Ces bénédictions-là, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, c'était destiné pour notre gloire. Le monde ne voit même pas qu'on est des gens glorifiés par Dieu, élevés par Dieu à cause qu'on a la révélation des choses de Dieu. Le monde ne comprenne pas le message, puis ils ne comprennent pas non plus les messagers. Ils ne comprennent pas, puis ils les persécutent, puis les frappent, puis les humilient, puis les tuent. Mais tous ces gens-là qui ont été voir ces meurtriers-là, c'était tous des envoyés de Dieu avec le message le plus précieux qu'ils ne pouvaient pas avoir sur cette planète, la révélation des choses de Dieu. Puis eux autres, ils en ont fait fi de tout la grâce qui était venue jusqu'à eux, puis ils ont assassiné. C'est ce qu'on voit dans une parabole. Ça nous parle de la parabole que le maître est envoyé pour aller chercher le fruit de la vigne à des vignerons, puis ils ont tué les uns, ils ont bâti les autres, puis ils les ont frappés de verges, ils les ont humiliés. Puis là, le maître, c'est sûr qu'il n'est pas de bonne humeur. En attendant, on est encore dans le temps de répandre ce message-là. Il faut en profiter pour le temps qui nous reste. Dans le verset 8, ça dit que c'est une sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Parce que c'est révélé à travers Jésus. Puis si tu refuses Jésus, tu viens de te couper de la révélation. Tu peux apprendre des petits bouts, parce que le Saint-Esprit continue à révéler pour essayer de faire comprendre puis les amener à Jésus, ou qu'ils reçoivent le bagage complet. Mais les gens, humainement parlant, sont privés de tout ce que Dieu avait pour eux. Car s'ils eussent connu cette sagesse-là, si ces grands-là auraient connu la sagesse, il n'y aura pas crucifié le Seigneur de gloire. Si le monde aurait su qui était Jésus, puis tout ce que Jésus venait nous apporter, il ne l'aurait pas crucifié. Il aurait dit, Alléluia, le Seigneur, il est là. Ben oui, mais il n'aurait pas pu mourir sur la croix non plus pour payer pour nos péchés. Il fallait que ça se passe comme c'était écrit, donc Dieu avait choisi de limiter sa révélation qu'à seulement quelques prophètes. Dans l'Ancien Testament, même dans le temps de Jésus, il y avait encore des prophètes. Anne, Siméon, ils étaient dans le temple. Puis quand ils ont vu Jésus, ils ont compris tout de suite. Le Saint-Esprit leur a dit, c'est lui l'enfant qui va venir nous sauver. Jean-Baptiste, sa mère a vu rentrer Marie, qui était enceinte, puis a été remplie du Saint-Esprit, puis la révélation se donne. Le Saint-Esprit donnait la révélation que Jésus, c'était le Sauveur. Puis, tous ceux qui étaient animés de l'Esprit le comprenaient, puis tous les autres, c'est des choses que le monde ne comprenait pas. Tout ça, c'est comme un petit peu de l'introduction pour nous aider à comprendre que tout ce qu'on va apprendre dans notre statut en Jésus, c'est quelque chose de grandiose, c'est de la sagesse de Dieu, c'est une bénédiction, on est privilégié de comprendre ces choses-là. C'est un privilège parce qu'on mérite rien, on est aussi pourri que tout le monde, sauf que la seule différence, on a eu la foi dans le Messie, on s'est repenti, ça nous a permis d'obtenir tout ce que Dieu va nous donner. Pour continuer un peu l'idée qu'on est une nouvelle créature, puis ça a commencé là, les révélations, puis tout le travail de Dieu dans notre vie. Mais il faut comprendre quel était notre statut avant de venir à Jésus. Parce qu'on a un nouveau statut, on a une nouvelle position en Jésus quand tu viens à lui. Mais quelle était notre position avant de venir à Jésus? Pensez-vous qu'on méritait quelque chose? Pensez-vous que Dieu nous devait de nous donner ces choses-là? Pensez-vous qu'on était des personnages si grands, si beaux, si parfaits, qu'on méritait ces choses? Pas du tout. Les premières vérités est que nous, en tant que païens, parce qu'on n'était pas de la nationalité juive, là, nous autres, on était des païens. Les païens, là, c'était à regarder avec un regard méprisant, méprisé par les juifs. Les juifs, on est des juifs, de peuple choisi, un païen. Si tu touches un païen, il fallait que tu te laves les mains, parce que là, lui est impur, puis il va te rendre impur. Il fallait que tu te purifies, rendu chez vous, parce que tu touches un païen. Un païen, là, c'était quasiment comme un animal, aux yeux de ceux qui se pensaient qu'ils l'avaient l'affaire. Nous n'avions, puis ça, faut être conscient de ça, qu'on n'avait aucun droit et aucun héritage devant Dieu. Les promesses ont été données à la descendance d'Abraham. Nous, on faisait pas partie de ce lignée-là, à part peut-être quelques-uns qu'on a des ancêtres juifs, on le sait peut-être même pas, mais c'est pas grave, on va le voir plus tôt que même ça, ça compte pas. Mais l'idée, c'est que faut comprendre qu'en partant, on est à loin de mériter quelque chose. En Éphésiens 2:12, ça nous dit, dans notre position de pas converti, là, avant qu'on se convertisse, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. En tant que païens, nous n'avions rien pour dire de tout ce que Dieu avait préparé pour nous. On n'était même pas dans la bonne lignée, dans la bonne race, pour pouvoir dire qu'on aurait quelque chose. On était sans Dieu. Oui, on s'en était peut-être fait des dieux, mais c'était des faux dieux. C'était pas le vrai Dieu. Il n'y a personne païen qui vit au monde païen qui peut dire qu'il est en communion avec l'Esprit de Dieu dès sa naissance. Impossible. Les païens étaient des gens sans Dieu. Avaient leur Dieu, oui, leur faux Dieu, leurs idoles, leur religion. Ça, on peut en bâtir des religions, mais devant Dieu, tout ce qu'on essayait de faire comme culte pour essayer de s'approcher de Dieu, ça servait à rien. Ouais, puis il était perdu. Il dit, va chercher l'apôtre Pierre, puis il va te dire les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Fait que même ce gars-là, dans toutes ses prières et dans ses aumônes, n'était pas encore sauvé. Même s'il priait Dieu, il n'était pas dans la connexion avec Dieu, puis il n'était pas sauvé. Il a fallu qu'il entende les paroles de Pierre pour être sauvé. Fait que tu peux être quelqu'un qui cherche Dieu, mais sans la révélation des vraies affaires, tu sais pas à quoi dire, quoi faire, à qui tu parles, t'es mêlé. Il faut que tu aies des révélations qui viennent pour comprendre les vraies choses que Dieu a pour nous. Puis t'es pas par naissance, t'es pas par ta religion, t'es pas par tes... Même si t'es un homme pieux, oui, tu cherches, puis si tu cherches, tu vas trouver. Dieu va finir par te guider quelqu'un, t'a donné les révélations, puis là, tes lumières vont s'allumer, tu vas comprendre, c'est Jésus, puis là, tu vas te mettre en règle avec lui. Mais tout ça, ça se fait quand tu entends les vraies affaires de quelqu'un qui est éclairé par les vraies affaires. Tu peux vivre aussi des expériences avec Dieu sans avoir compris. Il y a des gens qui ont été guéris par Jésus sans comprendre le salut. Mais ils n'ont pas été sauvés, ils ont juste été guéris. Tu peux recevoir des exaucements de prière par Dieu, comme Dieu envoie ses pluies, son soleil, sur les bons comme sur les méchants. Tu reçois des exaucements, mais ça ne veut pas dire que tu es sauvé. Ça veut dire que Dieu il est quand même miséricordieux dans sa bonté, dans son amour, il exauce quand même les gens. Mais dans le but que les gens réalisent les vraies affaires, puis que là, ils se connectent sur les vraies affaires. Sur Jésus-Christ et pouvoir recevoir, puis on va en voir quelques idées là-dessus. Notre être humain, avec toutes ses capacités, ses dons, ses titres honorifiques humains, parce qu'il y en a qui ont des statuts, le premier ministre, ou l'autre qui est dans sa religion, puis est rendu archi-évêque ou je sais pas quoi. Puis dans tous les titres qu'on peut se faire dans la vie, là, je suis le général de l'armée du salut. Mais là, tu peux avoir des titres humains, mais aux yeux de Dieu, ça sert à rien. Il dit, ça servira à rien lorsqu'on va se présenter devant Dieu pour pouvoir entrer dans la vie éternelle. Tous les titres humains, ça a peut-être une valeur pour nous élever parmi les hommes, mais aux yeux de Dieu, ça sert à rien. C'est plutôt le contraire. On arrive là, puis ce que Dieu regarde, lui, principalement, quel est l'état de notre âme? Es-tu dans les pardonnés ou est encore toute sale par ses péchés? Dans Isaïe 64, le verset 6, ça nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs. » Tu regardes quelqu'un, il est bien habillé, bien propre, bien... puis Dieu voit que son âme, c'est un âme impure. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des péchés. Pourquoi? Bien, tout le monde l'a fait. Pourquoi qu'un sera plus pur, puis l'autre est impur? C'est juste une question, t'as-tu été lavé par le sang de Jésus ou si tu ne l'es pas? Parce qu'on est tous impurs. En partant, on est venu au monde déconnecté, souillé, un peu, puis on a fait plein de péchés toute notre vie qui a fait qu'on s'est sali entièrement. Il dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Voyez-vous, quelqu'un qui arrive avec son titre, ouais, ben moi, je suis l'archi, je sais pas quoi. Ça compte pas. Dieu regarde pas ton titre, il regarde l'état de ton âme. T'es-tu dans tes péchés ou t'es mort pardonné? C'est juste ça qui a la différence. C'est pas nos titres qui vont nous donner une place dans la vie éternelle. C'est l'œuvre accomplie de Jésus qui peut t'avoir purifié, par exemple. On va voir que c'est important de naître de nouveau, de devenir une nouvelle créature. Parce que la créature que nous sommes, par défaut, en venant au monde, c'est une créature déchue, sale, qui sent pas bon devant Dieu, puis qu'elle peut pas rentrer. Faut devenir une nouvelle créature. Il n'y a rien d'autre qui compte que devenir une nouvelle créature. Une nouvelle création, créée par Dieu. Souvent, les Juifs qui se sentent supérieurs aux autres à cause qui sont descendants d'Abraham, selon la chair. Mais la révélation nous dit qu'eux-mêmes aussi, ils ne sont pas sauvés. Dans Romains 9, le verset 6 et 7, ça nous parle de cela. Il dit, c'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Selon la chair, oui, ils descendent d'Israël, puis ils sont des enfants d'Abraham. Mais c'est pas ça que Dieu regarde. T'es pas automatiquement, à cause que t'es un descendant d'Abraham ou d'Israël, t'es pas automatiquement un vrai habitant de la cité céleste, de l'Israël de Dieu. Ça, si tu le deviens. Même un juif ne peut pas se vanter de l'être par sa naissance. Ça compte pas aux yeux de Dieu. Faut que tu rentres dans l'Israël de Dieu par le moyen que Dieu a préparé, puis ça, c'est par la foi en Jésus. On va le voir plus loin. Juifs et païens suivaient sa propre voie aux yeux de Dieu. Dans Isaïe 53, le verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Fait qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas un qui dit, « Ouais, ben moi, je suis. » Ça compte pas. T'es un errant aux yeux de Dieu. T'es une brebis égarée. T'es un errant. T'es un perdu. Tu suis ta voie. C'est pas la voie de Dieu. Même si le gars, il s'est forcé, il en manque toujours quelque chose. Tu peux pas l'accomplir, la loi tout entière, pour pouvoir intégrer de rentrer dans le royaume. Ça te prenait un seul péché pour être disqualifié, puis tout le monde a fait des tonnes. Ça en prenait juste un pour nous disqualifier, puis c'est même pas nous autres qui l'a fait, c'est Adam et Ève. À cause de leur condamnation, la condamnation s'est étendue sur tous les hommes. En partant, on était tous déjà perdus. Fallait que Dieu fasse de quoi en nous pour nous rendre capables de saisir, voyez-vous? Plus que ça même, nous étions tous des morts vivants, sous l'emprise du diable. Ça, on voit ça dans Éphésiens 2, les versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand tu regardes les gens, oh oui, les gens, ça grouille, ça déborde d'énergie. Dieu regarde l'état de l'âme de la personne, puis il voit tout le monde comme des morts. Morts, pas physiquement, morts spirituellement, déconnectés d'avec Dieu, séparés de Dieu, des âmes qui sont comme errantes, déconnectées. Ils peuvent sauter, danser, puis avoir de la joie sur le moment, là, mais ça s'arrête là. Aux yeux de Dieu, ils sont morts, vivants. Ils sont vivants physiquement, mais morts spirituellement. L'ensemble de l'humanité, nous compris, on était tous des morts. Notre âme était morte. On était des créatures mortes devant Dieu avant de venir à Jésus. Fait qu'il n'y a pas un mort qui pouvait recevoir quelque chose de Dieu. Fallait que Dieu le ressuscite avant. Fallait que la créature devienne une nouvelle créature. Parce que cette créature-là est morte devant Dieu. Est séparée d'avec Dieu. Quand on parle de mort, moi, quand je vais mourir, mon âme va sortir de mon corps va tomber à terre, il appelle ça mort. Mort veut dire séparé. C'est une séparation qui s'est faite entre mon âme et mon corps. Mais spirituellement, la mort, c'est la séparation que l'homme a avec Dieu. Il est séparé d'avec Dieu, ça dit ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Nos péchés, on est couvert de nos péchés, puis à cause d'Adam et Ève qui sont morts, mais ça l'a fait une génération de morts. Puis on a fait plein de péchés, puis on persiste dans cette mort, on produit des fruits de mort jusqu'à temps, puis ça prend un aide qui vient d'ailleurs pour pouvoir faire une œuvre surnaturelle que nous prendre comme en étant un mort, puis nous ressusciter pour qu'on devienne une nouvelle créature, une nouvelle création. Il fallait que quelqu'un de parfait vienne et accomplisse le sacrifice ultime, la mort, pour nous permettre de ressusciter puis de recevoir les promesses de Dieu. Ça prenait quelqu'un d'ailleurs parce que tout le monde est mort. C'est pour ça que Dieu a décidé de venir faire un tour. Il est venu nous visiter. Il n'était pas du coin. Il venait du ciel. Il est venu pour venir accomplir la mission, le vivant parmi les morts. Il fallait que lui-même devienne dans l'état de mort pour que moi, je puisse recevoir son état vivant. Voyez-vous? Son statut, lui, il l'avait. C'est un vivant parmi les morts. Nous, on était des morts. Puis pour qu'on change de statut, lui, il fallait qu'il prenne notre identité, il fallait qu'il prenne notre statut, il fallait qu'il soit assassiné, qu'ils deviennent dans l'état d'être mort, puis ça a permis qu'ils prennent notre place, parce qu'ils ne méritaient pas ça, puis ils étaient sans péché, ça prenait quelqu'un de parfait pour pouvoir prendre la place des autres, puis Jésus était sans péché, il a accepté de venir mourir sur la croix, c'est pas l'idée, c'était pas la croix nécessairement, ça aurait pu être un poteau, c'est pas le fait d'être une croix, on a cette image-là souvent, mais ça pouvait être le bois. Ça peut être un poteau, ça peut être n'importe quoi, je dis ça de même en passant. Le point, c'est d'accepter de mourir pour s'identifier aux morts, puis par la suite, mais c'est ce qu'on va voir, il a ressuscité, ce qui nous permet à nous de ressusciter. Dans Isaïe 53, le verset 6, ça dit, « Et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité de nous tous. » Tous nos péchés ont été débarqués sur lui, puis là, il est mort. Il est mort pour nos péchés. Il a pris sur lui des péchés qu'il n'avait pas faits, mais il a pris nos péchés sur lui. Il a expié nos péchés. Ce qui nous permet d'en être débarrassés, que notre âme puisse être lavée. Ça l'a coûté son sang qui était versé. Ça prenait du sang pour avoir le pardon. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Il a versé son sang pour le pardon de nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Jésus a été ressuscité et suite à sa victoire, cela nous a permis de nous repentir pour qu'on puisse recevoir le Saint-Esprit. C'est là que ça commence à changer. Dans Actes 5:30, ça nous dit, le Dieu de nos pères, en parlant, c'était des Juifs qui parlaient, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Voyez-vous, ce qu'il y a de beau, là, c'est la possibilité qu'on a maintenant, à cause que Jésus a accompli son sacrifice, la possibilité qu'on a maintenant de pouvoir se repentir puis de recevoir le pardon de nos péchés. Ça commence là, le changement dans une personne. À partir du moment qu'une personne se repent puis qu'elle croit que le sacrifice de Jésus était pour ses péchés, puis tu le reçois, tu lui dis, je te demande pardon, Seigneur, parce que là, faut pas même penser qu'il nous donne le cadeau de la vie éternelle. Non, c'est bien plus profond que ça. On arrive là comme étant un âme morte. On est des morts vivants. On est sans vie. Il faut plus que juste nous pardonner. Il faut qu'il nous communique la vie. Puis la vie est dans son Saint-Esprit. Faut que premièrement, il te pardonne tes péchés, puis après ça, il peut te donner le Saint-Esprit, que lui, le Saint-Esprit, va rentrer dans ta vie, puis là, tu vas ressusciter. C'est ça, la résurrection. Comme je disais tantôt, t'es séparé de Dieu, t'es séparé, t'es mort. C'est ça que ça veut dire, mort, séparé. Mais quand le Saint-Esprit rentre dans toi, le Dieu est entré en toi, t'es plus séparé, t'es rendu ressuscité. Tu vis maintenant grâce à ta communion avec l'Esprit Saint. C'est Dieu qui rentre en toi. Tu es un être ressuscité. Mais avant de te ressusciter, il fallait qu'il pardonne tes péchés. Mais avant que tu sois pardonné, il fallait que tu te repentes. Voyez-vous? Bon, mais dans ce passage-là, ça dit clairement. Jésus est ressuscité. Lui était tué, pendu au bois. Mais Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pour donner à Israël, mais pas juste à Israël, même à nous qui sommes païens, donner à tout le monde la possibilité de la repentance et le pardon des péchés. Puis les apôtres qui étaient en train de parler étaient témoins de ces choses, puis ils voyaient ces choses-là arriver, puis il dit de même que le Saint-Esprit qui est donné à ceux qui lui obéissent. Fait que quand les gens se repentaient, le Saint-Esprit rentrait dans les personnes, puis les gens étaient ressuscités, puis étaient des nouvelles créatures. Parce que avant c'était un mort, puis maintenant c'est un vivant. Quand tu reçois Dieu, tu es devenu vivant. Dieu habite en toi. Tu es une nouvelle création, une nouvelle créature. Il t'a ressuscité. Tu n'es plus la même personne. Il s'est passé de quoi d'extraordinaire à ce moment-là. C'est là que ton statut a changé sur tous les autres points, parce que Dieu a un paquet de statuts ou de comme je disais tantôt, des positions. T'es maintenant cela, t'es maintenant cela. On va en voir d'autres dans les autres semaines. Des nouvelles positions qu'on a en Jésus dans cette nouvelle création reçue lors que ce qu'on s'est repenti puis qu'on a reçu Jésus. La nouvelle vie en Jésus, est en Jésus. Le fait de se repentir et de se convertir au Christ, cela fait de nous de nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est pour ça que la vie d'un chrétien change après sa conversion. Quand c'est une conversion authentique, que le gars s'est réellement repenti puis qu'il a reçu le Saint-Esprit, sa vie a commencé à changer. Pourquoi qu'il change? Pourquoi qu'il y a un changement? Parce que c'est une nouvelle création. C'est une nouvelle créature, c'est plus le même. C'est plus le même Daniel Poulain comme c'est plus le même chacun de vous au moment où tu as laissé rentrer le Saint-Esprit. Ta vie a commencé à changer puis toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu vas constater ces changements-là toi-même. Puis ceux qui te connaissent de proche vont le remarquer. Qu'il s'est passé de quoi de spécial? C'est plus le même. C'est naturel et c'est normal. Il a reçu le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus appelle « naître de nouveau ». Dans Jean 3, 7, Jésus le dit à Nicodème. « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. » Fallait que tu naisses de nouveau pour pouvoir voir et entrer dans le royaume. Mais cette nouvelle naissance-là, c'est au moment que tu te repens puis que tu reçois le Saint-Esprit. Nous sommes maintenant sa nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle créature, c'est parce que Dieu, il t'a recréé. Tu es rendu différent. Comment ça se fait? Parce que l'Esprit du Dieu Tout-Puissant entre dans ta vie, c'est lui qui te ressuscite premièrement, c'est lui qui va te régénérer, te renouveler, changer même tes pensées, tes paroles, tes manières d'agir, tout va devenir changé. Dans Éphésiens 2, 10, il y a un bon petit bout qui nous dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Nous sommes son ouvrage. Dieu a commencé une œuvre en nous. Avant, on était des brebis errantes. On suivait chacun notre propre voie. Mais à partir de notre conversion, on est rendu son ouvrage. On est de nouvelles créatures. Tout est en changement. Ça, c'est grâce à l'œuvre de Jésus puis l'action de l'Esprit-Saint en nous. Rien d'autre ne compte que d'être une nouvelle créature. Comme j'ai dit tantôt, même tes titres, même s'ils seraient longs de même, ou tes descendants d'un tel, ou quoi que ce soit, ou si t'auras de l'argent, puis que l'argent te sort par les oreilles, peu importe ta position sociale, ta race, ta couleur de peau, ta religion, il n'y a rien qui compte devant Dieu dans tout cela. La seule chose qui compte, c'est que tu deviennes une nouvelle créature. Ça nous est dit dans Galates 6, 15. Puis cela, quand tu es devenu une nouvelle créature, ça confirme que tu es sauvé. Sans avoir passé par là, tu n'es pas sauvé. Même si tu as été touché, tu as été guéri, Dieu t'a parlé, t'a montré des affaires, d'autres personnes te l'ont dit, tu as les meilleurs chums de l'Église. Il y en a qui m'ont déjà dit, moi j'ai comme chum Claude Hood. Oui. Mais Claude Hood, lui, c'est Claude Hood, mais toi, t'es qui? Toi, l'as-tu reçu? Tes chums, ça compte pas que t'aies un chum qui soit sauvé. Toi, il faut que tu le reçoives personnellement. Dans Galates 6, 15, ça nous dit, « Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Faut que tu sois né de nouveau. Faut que tu sois devenu une nouvelle créature. Ah, est-ce qu'on s'examine? Est-ce qu'on se regarde des fois pour dire, j'ai-tu vraiment changé? Ben oui. Si tu le sais, là, tu sais que Dieu agit en toi. C'est visible. C'est pas une affaire secrète. Oui, c'est secret face au monde, ils ne peuvent pas comprendre cela. Tu vas leur dire, il faut que tu naisses de nouveau. Ça se comprend pas intellectuellement, il faut que tu le vives pour le savoir. quand tu t'es repenti, après ça, wow, j'ai été délivré de ça, je chacrais à tour de bras, puis là, je chaque pu, je comptais des menteries, à cette heure, ça me sonne dans les oreilles, à toute fois, j'en dis une. Puis il y a des affaires que tu peux plus endurer dans ta vie, mais tous ces changements-là, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il te le montre avant que tu les voyais pas, puis tu sacrais à tour de bras. Mais ça, c'est un exemple. Mais tous les péchés qu'on peut commettre, il nous les montre. Il veut nous changer, il veut pas qu'on reste comme qu'on était. Toute chose est devenue nouvelle. Mais ça, le changement s'opère, puis c'est le Saint-Esprit qui le fait. Nous sommes maintenant changés de statut. Nous sommes des réconciliés et sauvés par la foi. Parce que tu es né de nouveau, tu es un sauvé, tu es un vrai sauvé. Dans Colossiens 1, 22, c'est le dernier verset. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, wow, on était des ennemis de Dieu avant. Quand tu es un mort vivant, suivais ta propre voie, t'es un ennemi de Dieu. Tu penses qu'on peut penser qu'on est chum, qu'on est bien proche, puis je parle à tous les soirs, puis qu'on pense qu'on arrange des affaires. Quand t'es dans la position de mort vivant devant Dieu, t'es un ennemi de Dieu, par nos pensées, par nos mauvaises œuvres. Le plus beau, il est là. Il vous a maintenant réconciliés. Wow! C'est là que le contact a recommencé. L'Esprit Saint rentre en toi. C'est extraordinaire. Par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible, sans reproche. Il t'a pardonné, puis a fait de toi un saint. Grâce au sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix, ça nous a permis de devenir une nouvelle création. C'est là que la nouvelle vie commence, puis c'est là que ça, le salut commence. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui nous fait du bien, puis qui nous rappelle tout ce qu'on a vécu, ce qu'on comprend en partie ou en totalité, mais tu veux nous le révéler. Tu veux nous faire comprendre notre nouveau statut en Jésus. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie, ta mort sur la croix, puis ton sang qui était versé, puis ta résurrection qui nous permet d'être sauvés. Tu t'es identifié à nous qu'on était perdus pour venir nous chercher, puis nous donner l'occasion de se repentir, puis de recevoir ton cadeau. Seigneur, merci, merci et merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Seigneur, on va être éternellement reconnaissant pour ton salut, puis le cadeau que tu nous as donné d'être une nouvelle créature. Seigneur, conduis-nous dans cette nouvelle vie, puis on veut comprendre et réaliser en profondeur tout ce que tu as à nous révéler sur ces choses. Je te rends grâce dans le nom de Jésus. Amen.